Écrit d'ici avec le Ciala. C-I-A-L-A.
Collectif interculturel d'auteurs de Loire-Atlantique.
Rencontrer un auteur, ça vous dit ?
Alors retrouvez-nous le deuxième mercredi du mois à 17h30 sur Jet FM 91.2 et le quatrième mercredi du mois, toujours à 17h30, toujours sur Jet FM 91.2.
Ou en podcast sur jetfm.fr.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Martine.
Bonjour.
Bonjour Eladie Azi.
Bonjour.
Écrit d'ici, l'émission qui donne la parole aux auteurs reçoit aujourd'hui Eladie Azi pour son roman Une jeunesse fragmentée dans la Contre-Allée 1, paru en 2023 aux éditions E. Merci Eladie Azi d'avoir accepté notre invitation. Donc aujourd'hui, on va échanger à propos de votre premier roman, Je ne pense pas faire d'impair. Qui nous a laissé à penser pendant la lecture un peu à une peinture impressionniste, touche après touche, juxtaposée, qui va raconter votre jeunesse algérienne, comme son nom l'indique et comme c'est mis en préface. Alors vous expliquez dans votre livre un peu l'élément déclencheur de l'écriture, cette envie un peu enfouie, c'est la disparition de votre père. Peut-être aujourd'hui on a envie d'entendre, avant d'échanger plus longuement sur le livre, est-ce que cet acte d'écriture a répondu à ce que vous espériez ? En tout cas, qu'est-ce que ça, quelle place ça a pris chez vous ?
J'aime beaucoup touche d'impressionnisme. C'est vrai, ça, j'avais pas pensé, mais c'est vraiment ça. Et l'écriture. La question, c'est quoi ?
Voilà, est-ce que ça a produit l'effet que vous attendiez d'écrire, quelque chose un peu libérateur ? En tout cas, c'est comme ça. Ou voilà, est-ce que l'écriture finalement va s'inscrire plus durablement pour vous ?
Alors, donc il y a deux questions. Alors la première question, est-ce que c'est un acte libérateur dans le sens où j'avais besoin et de poser sur du papier devant moi écrit ce que j'avais dans la tête depuis quelque temps déjà et c'est vrai le décès de mon père m'a permis justement de coucher sur le papier tout ce que j'avais enfoui en moi. Et je ne pouvais pas m'en débarrasser. Je me suis dit, je ne peux pas ne pas le faire. Si je ne le fais pas, il y a quelque chose qui va me manquer et je vais tout le temps y penser. Donc, je pose et après on verra. Et du coup, le fait de poser c'est écrit assez vite, au fait, puisqu'il était décédé en décembre. Et un an après, il était sous presse, le livre. C'était vraiment, j'ai écrit assez rapidement, mais j'avais beaucoup de choses en moi. Donc après, est-ce que ça va apporter, ça va m'amener à écrire, je sais pas. Beaucoup d'amis me disent, il faudrait le tome 2 maintenant, on veut savoir la suite. Mais bon, après, il faut aussi, des éléments déclencheurs, des choses qui disent en soi, j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de dire quelque chose.
Merci beaucoup.
Alors, dans une jeunesse fragmentée, Eladie Azi raconte le parcours d'un enfant né en Algérie en s'inspirant d'éléments autobiographiques. Un jour, son père, émigré en France et remarié à une Française, vient le chercher et l'emmène avec son frère. Il grandit dans un nouveau cadre de vie, entre un père souvent absent et inconstant, et une succession de belles-mères. Plus ou moins livré à lui-même, et il frôle la délinquance. En fait, il cherche sa place au fil de ses expériences.
Alors, en écho au résumé que vient de faire Martine, on a une question un peu qui nous taraude, puisque c'est vrai que c'est un livre parsemé de ruptures, et puis c'est une écriture assez directe, donc les faits sont posés. Qu'est-ce qui fait que vous avez échappé à ce chemin de la délinquance, ou ce n'était pas, même pas, comment dirais-je, dissimulé comme intention, c'est-à-dire qu'il y avait des offres ouvertes, vraiment cette possibilité. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel, j'imagine, vous avez réfléchi, mais est-ce qu'il y a une réponse à ces questions-là ?
Alors c'est marrant, vous prenez sous l'angle, parce que là on passe quand je suis arrivé en France, mais oui. Toute une partie en Algérie bien sûr, et
on y reviendra bien sûr.
Oui, d'accord. Sur ce volet-là de délinquance, donc qui nous emmène dans si on passe en touche d'impressionnisme, là je suis vraiment dans la partie française où je commence à un adolescent, un grand adolescent, et c'est vrai que mon père fréquente plutôt un milieu interlope, et lui-même avait créé un tripot clandestin dans son bar, et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de délinquance, et il y avait beaucoup de gens des malfrats en fait. Mais alors c'est vrai que moi j'ai toujours regardé ça de l'extérieur. Je savais que j'étais acteur de ça. Les gens se... D'ailleurs, ils me voyaient sans me voir, je crois. Et moi, je les voyais, je voyais les gens bouger autour de moi, je voyais tout ça. Mais je savais que je n'appartenais pas à ce milieu. Je n'appartenais pas. Je les connaissais, je connaissais leurs codes. Je les voyais vivre, ils m'acceptaient, j'étais toujours autour d'eux, j'étais dans leurs pattes. Mais en tout cas, jamais ils m'ont demandé d'être un des leurs.
Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on tombe ou pas, enfin, ou on verse, ou parce que est-ce que c'est le hasard, est-ce que c'est l'éducation antérieure justement peut-être, est-ce que qui fait que bah non, du coup, on bifurque vers une vie, hors de la délinquance quoi.
En fait, en ce qui me concerne, c'est que moi, quand j'étais en Algérie, j'étais qu'avec des grands-mères, des tantes, et je n'avais pas le droit d'aller à l'école ni rien. Donc du coup, je restais tout le temps enfermé. Et cette introspection, au fait, quotidienne, faisait que je cherchais un monde en moi. Et je cherchais toujours un monde idéal, donc je rêvais à un monde. Et je savais que l'offre qui était là devant moi quand je suis arrivé en France, c'était pas celle-là. Je savais que c'était autre chose et que c'était pas ce chemin-là que je devais prendre. Et oui, c'est une question de chemin, c'est une question de hasard, mais j'étais persuadé que c'était pas ce chemin. Donc voilà, peut-être que, comme on dit, c'est voilà le destin, c'est comme ça. Je sais pas.
Alors justement, vous parlez de... On vous a projeté directement en France. Hein, vous arrivez en France à 12 ans. On va dire vous arrivez en France presque rapté, même si c'est votre père, tel que vous le décririez dans le livre. Hein, c'est une rupture extrêmement brutale. Une absence de lien total avec l'Algérie une fois que vous serez en France, en tout cas momentanément. De cette absence, on a l'impression que vous quittez un lieu, alors à la fois choyé, mais en même temps, vous le dites vous-même, un peu sous cloche. Enfin, je ne sais pas si l'expression est appropriée. Ça fait quoi un enfant de 12 ans, comme ça, de passer un peu de la lumière à l'ombre ? En tout cas, c'est un peu cette sensation qu'on a en lisant. Voilà, je ne sais pas si les sentiments sont encore présents, les souvenirs ont modifié peut-être les choses.
En fait, c'est sûr, comme chacun, c'est indélébile. Lorsqu'on vit des choses, sa jeunesse, son enfance, c'est indélébile, c'est enfui en nous. Mais est-ce que j'ai... comment ça s'est produit ? En fait, c'est moi, je le vis pas, je le vis comme un parcours. On avait une enfance avec mes frères et sœurs, on avait une enfance malheureuse en Algérie, en fait, en vrai, parce que mon père avait répudié ma mère, et donc on vivait vraiment, alors qu'on avait une belle vie avant qu'il la répudie, pour venir vivre en France, et donc on était vraiment très malheureux. Et le fait d'arriver en France fait que c'est un nouveau monde pour moi. Donc je savais, et c'est marrant parce qu'on parlait tout à l'heure, est-ce qu'on a un destin, etc. Mais je savais au fond de moi que jamais que je ne resterai pas en Algérie toute ma vie. Ça, je le savais. D'accord. Pourquoi ? Mais c'était comme ça. Et du coup, on arrive en France avec et ce père qui voulait pas vraiment de nous, en vrai, il était un peu obligé de nous accueillir. Et c'est pour ça qu'il a toujours été absent. Et on a vécu des choses après, du coup, plutôt, oui, c'est ça, plutôt livrés à nous-mêmes et livrés à moi-même aussi.
Mais. Mais on a l'impression quand même que, enfin, même si ce n'est pas écrit dans le livre, que tu veux faire un trait sur le passé algérien et complètement t'investir dans, le, bah, dans ce que tu vis au moment. Quoi. C'est vrai que tu es jeune, hein, donc... Comme si c'était oui, peut-être c'est trop douloureux, je sais pas.
Non, mais ça, le trait, au fait, c'est que quand j'arrive à l'âge de 12 ans en France, et mon père me dit, j'ai toujours voulu vous récupérer, et c'est votre mère qui vous a jamais voulu vous laisser.
Oui, c'est ça.
Et donc, du coup, ça m'a vraiment profondément blessé. Et là, et c'est vrai, c'est curieux. J'ai effacé de ma mémoire l'Algérie. Vraiment effacé. Et quand je comprends que des gens me disent, me racontent de temps en temps, me disent, mais on a effacé une partie de notre mémoire de ce qu'on se souvient plus. Je comprends très bien ce qu'ils veulent dire parce qu'à un moment donné, il y a une force qui arrive comme ça qui vous dit, parce que à cause d'un choc, là, c'était mon choc. Mon père qui me disait, mais alors qu'on était avec ma mère, malheureux, etc., on était ensemble et on avait ce père absent. Et quand il dit, bah oui, mais c'est votre mère qui a jamais voulu votre bonheur, en fait. Là, c'est un gros choc. Et je me souviens très bien, on était là dans une chambre, dans le studio du fond de son restaurant, et j'ai pleuré tout ce que je pouvais pleurer. Et j'ai dit, ce jour-là, j'arrête, je ne pense plus à l'Algérie, si j'ai fait un trait. C'est vrai.
Un système de défense, peut-être, hein. Certains diraient, nos amis psychologues pourraient dire, comme quelque chose d'assez... Pour vivre, se protéger, en fait, de quelque chose d'un peu douloureux. Parce que la question qu'on se pose en lisant, c'est-à-dire cette mère quittée brutalement à 12 ans, retrouvée presque aussi brutalement à 19 ans.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Ouais. Avec une absence, en tout cas dans le texte, d'évocation, alors qu'il y a deux autres frères, une petite sœur, mm-hmm. hein, dont on sait voilà, qu'elle est. Alors, elle est en pension. Enfin, bon, il ne faut pas dévoiler tout le livre. Mais... Et en fait, à aucun moment dans le livre n'apparaît justement de questionnement par rapport à cette absence, d'envie. De reprendre contact ou d'interrogation, ce qui est allé relativement classique, on va dire, dans les séparations. Est-ce que ça aussi, ça fait partie de cette espèce d'effacement momentané du passé algérien, la mère y compris ?
Alors oui, c'est ça. C'est, je pense à la... Chacun, c'est marrant parce que lorsque j'avais présenté le livre à mes frères, ils me disaient, mais, oh ouais, mais moi, j'ai vécu ça comme ça. Donc, c'est vrai, je leur ai dit, bah non, c'est de mon point de vue à moi. Donc, du coup, c'est depuis ma fenêtre. Mais, la mère n'était jamais évoquée. Jamais. Alors, parce que deux choses, peut-être parce que, on n'avait pas oublié, parce qu'on voyait bien que les autres copains avaient une mère, tout ça. Donc, du coup, il y avait toujours ce côté-là maternel. Moi, ça m'a toujours intrigué. Je regardais leur mère, comment elles agissaient avec eux, comment elles se comportaient. Mais en même temps, j'avais complètement oublié ma mère, mais parce que aussi, on avait aussi beaucoup de belles-mères. Donc, il y avait toujours une belle-mère à la maison. Donc, c'est vrai que le sexe féminin était présent. Donc, du coup, mais c'était un peu éloigné. Bon, quelques-unes étaient très sympas avec moi. Bon, une m'a offert mon premier bled, un dictionnaire et mon premier stylo Waterman. Donc c'était vraiment, oui, ça dépendait des belles-mères. Mais il y avait toujours voilà, la gente féminine qui était présente. Mais non, oui, c'est vrai, la mère était complètement oubliée. On n'en parlait pas, jamais. Alors, est-ce qu'on avait vraiment coupé?
Mais elle s'est tue en même temps. Elle s'est tue, enfin, je veux dire, elle n'a rien dit. Quand c'est vraiment le... pas parce que elle n'avait pas le choix, quoi. Ah elle était obligée d'accepter les choses comme elle est. Voilà,
une femme en Algérie, si elle n'a pas de mari, elle n'existe pas.
Ouais.
Elle n'existe pas. Enfin, là, à son époque, mais elle n'existe pas. Donc, elle n'a droit à rien. Donc, le fait, rien que de prendre contact avec, depuis l'Algérie, en France, c'est une expédition, hein, qu'elle passe par des circuits diplomatiques détournés, j'imagine, et elle a réussi, quand même, à contacter un cousin à elle, etc. Donc, c'est elle qui a pris contact avec nous. Vraiment, oui, oui.
Alors, on continuera la conversation après la pause musicale. Eladi Azizi a choisi Bugs Groom, interprété par Milt Jackson.
Milt Jackson, oui, tout à fait. sentiments.
Vous êtes bien sur Jet FM dans l'émission Duciala écrit d'ici. Nous sommes en compagnie de Eladie Azi pour son récit Une jeunesse fragmentée.
Voilà. Alors, Eladie Azi, vous aviez envie de dire quelque chose à propos de la musique que nous venons d'entendre?
Ben oui, c'est la première musique quand j'arrive en France. Mon père, il avait un bar, un restaurant, et il y avait de la musique. Et c'est la première musique que j'entends, occidentale.
D'accord.
Et c'était ce vibraphone. Et depuis, j'étais scotché, mais vraiment scotché. Il n'y avait pas de bruit, il n'y avait que lui qui était là. Et j'ai vraiment ressenti quelque chose de très profond. Et là, depuis, voilà, Miles Jackson, je le vénère. Bon, et après, il y a des versions avec Miles Davis, etc. Mais vraiment, c'était le... Alors, j'avais une culture plutôt... j'entendais plutôt à la radio, à la télévision à Alger, plutôt des styles orientaux, égyptiens, Om Keltoum et d'autres. Mais là, vraiment, c'était le choc occidental.
D'accord, merci de nous avoir donné cette histoire. Alors, il y a quelque chose d'autre aussi dans ce livre, c'est la question de l'école, en fait. Hein, donc, à la fois, vous dites, en Algérie, j'étais... couvé, peut-être sous cloche. J'aime bien ce terme parce qu'il y a quelque chose où on manque un peu d'oxygène et quand on lit une certaine partie de la jeunesse algérienne, il y a cette sensation pour l'enfant que vous êtes à l'époque. Mais c'est vraiment la question de l'école hein, qui revient. Il y a quelque chose quand même de cette envie de vous raconter à un moment dans le livre hein, quand vous recevez une distinction parce que vous avez obtenu... des résultats, il y a vraiment une forme de fierté. Donc, c'est un vrai moteur, ça aussi, de pouvoir récupérer ces questions d'école, l'instruction, comme on le disait à l'époque.
Bah, l'instruction, ouais, c'est fondamental. Donc, c'est même pas à l'époque, c'est tout le temps, en fait, l'instruction. Mais nous, quand on a géré, on n'était pas sous cloche, on était plutôt enfermés. Donc, enfermés, pas le droit de sortir, pas le droit d'aller à l'école. Donc, on était plutôt malheureux. Donc, c'était une frustration, une vraie frustration et un calvaire. Alors qu'on voyait d'autres cousins, etc., qui eux partaient à l'école, pas le droit d'aller à l'école parce que c'était trop cher, en fait. Parce que mon père, quand il répudie ma mère, elle revient chez ses parents, elle était partie. Ses parents se débarrassaient d'elle quelque part, parce que vous avez une bouche à nourrir en moins, surtout une femme, et ils se débarrassaient d'elle. Donc elle revient avec 4 gamins et enceinte. Donc du coup, on devient plutôt un fardeau pour les grands-parents. Et on va pas à l'école, et alors qu'on avait une tante institutrice, hein, donc on a aucune éducation, aucune instruction. Mais là, c'est... Et moi, j'ai toujours rêvé d'instruction, en fait. J'ai toujours rêvé de culture, d'instruction. Et c'est vrai, quand j'arrive en France, la première chose, alors que c'était une montagne, le bled, je me souviendrai toujours apprendre le bled. C'était une montagne. Et moi, c'est vrai, j'ai adoré, j'adore toujours fracasser un petit peu des choses difficiles. Oui, c'était vraiment pour moi un challenge et une vraie volonté d'accéder à la culture, à l'instruction.
Ouais, alors moi j'avais une petite question, une remarque d'abord, à propos des moments de soulagement à chaque départ du foyer paternel, l'école, le collège, la pension, le service militaire, ensuite, un départ, un retour et une découverte, finalement, de l'Algérie. Donc, moi, c'est à propos de cette redécouverte de l'Algérie, quoi, parce que c'est un retour au pays. Et ce qui ressort un petit peu, c'est un goût de l'aventure, quand même, aussi. Donc, voilà, c'était là-dessus.
Donc là, on passe à une phase...
une vingtaine d'années, je crois, ou quelque chose comme ça.
Oui, ouais. Voilà, c'est ça, un peu plus. Et du coup, c'est vrai que... lorsque ma mère revient, tout ça, donc on a plusieurs choses d'aventure encore avec mon père. Et à un moment donné, ma mère me dit, écoute, voilà, j'ai un oncle qui marie son fils, parce que là on était vraiment en difficulté encore une fois, parce que quand ma mère revient, ma mère et mon père se remarient, et après mon père a toujours ses aventures, c'est ça, donc il change pas, et il est encore dans sa période de démon, quelque part, entre guillemets, l'autre face de son visage qui apparaît. Donc, du coup, il fracasse encore la famille. Et ma mère me dit, écoute, voilà, j'ai un oncle, il marie son fils. Franchement, j'aimerais bien que tu ailles en Algérie, parce que je savais plus quoi faire, là, en France, avec mon père. On était plutôt en rupture. Elle me dit, écoute, vas-y, va me représenter en Algérie, si tu veux bien. J'ai dit, c'est super, donc on y va. Et là, on est accueillis en Algérie avec mon petit frère que j'emmène avec moi. On est accueillis vraiment, voilà, les enfants de la cousine, etc., qui sont là. Donc, on nous présentait partout. Il y a un des oncles qui est plutôt dans le transport international, qui nous avait aidé à partir d'Algérie, en fait. Et qui nous dit, voilà, j'ai mes camions qui font le dernier trajet sur Djanet, ils vont construire là-bas, un groupe français vont construire l'aéroport de Djanet, j'ai mes camions, il y a 4 camions qui partent dans le désert, dans le Sahara, qui vont amener des cabanes de pré-chantier, des cabanes pour installer le chantier, est-ce que vous voulez y aller? Alors, au début, ils pensaient qu'on a dit oui, mais ils se disent, ils friment. Et quand, un mois et demi après, ils nous voient revenir, ils disent, ouais, voilà, c'est pour embarquer, il était vraiment hyper surpris. Et là, on découvre le Sahara et vraiment, on tombe amoureux du désert. Et on va avoir plusieurs fois l'occasion d'y retourner.
Oui, parce qu'à la fin du livre, moi, j'ai compris qu'en fait, tu repartais, il repartait le jeune, enfin, le, il part par là-bas, quoi. Il rentre en France, puis il n'a qu'une envie, c'est de repartir, en fait.
Alors voilà, donc c'est peut-être la suite, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que quand on est revenu de l'oncle avec ses camions, pratiquement un mois là-bas dans le désert, jusqu'à la frontière de la Libye, et vraiment, il y a cet amour avec, dans le désert, on se dit, c'est pas possible. Et moi, j'étais fou amoureux, enfin, j'adorais ce qu'on appelait toute la période un peu Paris-Dakar. Donc du coup, avec mon frère, on était là, mais il va falloir qu'on fasse quelque chose. Donc on a acheté deux voitures, on en a démonté une pour la mettre dans l'autre, parce qu'on n'avait pas de sous, hein, on n'avait pas un radis, quoi. Donc on s'est dit, bon, on va vivre comme ça. Au fur et à mesure, arrivé là-bas, on a juste de quoi prendre la voiture, la mettre dans le bateau, et en Espagne, à Melilla, et on verra après qu'est-ce qu'il advient. Et au fur et à mesure, on vendait les pièces détachées, les vêtements qu'on avait achetés en France, qu'on avait récupérés. On les vendait, ouais, non, c'est ça, pour se faire du fric, pour de l'argent, pour pouvoir traverser, hein, jusqu'au Niger. Ouais.
Et d'ailleurs, c'est intitulé dans le livre, hein, La Transsaharienne, une voie mythique pour une renaissance. Donc c'est vraiment très chargé émotionnellement, puis de symboles, en fait. Hein, donc,
C'est vrai, c'était une vraie renaissance, en fait, parce que traverser le désert, on se rend compte que on n'est pas grand-chose. En réalité, quand on traverse ces immensités, on n'est pas grand-chose. On est juste un petit grain de sable. On est là, on n'est pas là. C'est exactement ça. Ça ne change absolument rien. Donc on relativise beaucoup de choses. Et surtout, on a fait des rencontres aussi, des belles rencontres sur le trajet.
Quand on lit et quand on entend, il y a presque quelque chose d'incroyable, en fait, dans ce qui se dit, d'autant que c'est porté un peu comme... alors, on entend la question du destin, avoir un destin. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Faire des rencontres, des bonnes et des mauvaises, et saisir les bonnes. La question, bien évidemment, qui brûle, parce que c'est très d'actualité, hein, les parcours de migration, volontaires ou pas volontaires, la question de son devenir, la question du déterminisme. Ça, c'est un bel exemple de, je sais pas, de réussite perso. C'est toujours possible, ce genre de parcours, selon vous? Est-ce qu'il y a des ingrédients indispensables? Est-ce qu'on peut dire quand on veut, on peut, ou alors c'est plus compliqué que ça?
Je pense que Mektoub ou le destin, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai qu'on a le choix. En réalité, on a souvent le choix de faire les choses ou ne pas les faire. En même temps, est-ce qu'on est en pleine conscience ou bien on se dit « je me fie à un sens, un sixième sens » ou je ne sais pas, un cinquième ou sixième sens. Est-ce que je me fie à quelque chose ou est-ce que je me laisse entraîner? Parce que c'est facile de se laisser entraîner en réalité. Parce que, on a un groupe. Moi, j'avais la chance, quelque part, c'est que je n'avais pas vraiment de groupe et je savais me détacher des groupes. Mais en même temps, est-ce que... Mais en réalité, on a le choix. Ça, c'est vrai. On ne peut pas dire qu'on n'a pas le choix. Et on a le choix de le faire. On a le choix de jouir des choses immédiates ou bien plutôt de se dire, je vais plutôt... pas souffrir, mais je vais moins jouir de l'instant et de quelque chose qui paraît être un bonheur ou une jouissance immédiate. Se dire peut-être que là, je ne vais pas forcément se dire qu'il y a un chemin à parcourir. Et, mais on a un choix, en fait.
On arrive au bout de l'émission. Et donc, si tu veux ajouter quelque chose, là, parce que sinon, c'est...
Mais à propos du livre, c'est-à-dire que nous, on a pris des angles de lecture. Est-ce qu'il y a quelque chose...
Non, en fait, moi, j'ai bien aimé. Après, chacun a son angle. Mais moi, j'étais vraiment... C'est vrai, ça m'a plu aussi, cet angle-là. Ça prouve que les écrits, les ressentis des uns et des unes et des autres sont différents. Et j'ai apprécié, merci. Et le choix de la musique que j'ai faite après.
Voilà, donc pour
c'est
finir...
C'est Alain Aznavour, alors pour deux choses. D'abord, mon père, quand on est arrivé en France, moi j'étais éduqué à deux artistes, c'est Oum Kalthoum, il avait ses vinyles, c'était que matin, midi et soir, et Charles Aznavour. C'était que ces interprètes-là. Et Charles Aznavour, je le connais par cœur, mais les comédiens que j'ai choisis, c'est aussi un clin d'œil parce que par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, où lorsque j'écoutais cette musique, cette chanson et ces textes de Charles Aznavour, quand je suis arrivé en France, j'étais vraiment, je voyageais, ça me faisait voyager, ça me faisait voir un autre monde. Et là, c'est aussi rendre hommage aux comédiens, aux comédiennes, aux artistes qui traversent une période difficile, surtout en Pays de la Loire. C'est tout mon soutien à ces artistes.
Eh ben merci.
Merci, elle a dit.
Allez.
Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens.